C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 22 avril et aujourd'hui nous allons parler du plastique.
En 2022, nous avons produit plus de 450 millions de tonnes de plastique, un chiffre qui devrait être multiplié par 3 d'ici à 2060, mais pas besoin d'attendre si longtemps pour faire un constat. Le plastique est partout, dans les vêtements, les jouets, les fournitures scolaires, les véhicules, encore les appareils électroniques. Et par extension dans nos organismes, dans tous les écosystèmes et à tous les niveaux du vivant. Mais alors concrètement, qu'est-ce que le plastique? En quoi sa présence dans l'environnement est-elle si problématique? Et comment en sommes-nous arrivés là?
Pour en parler, nous serons en compagnie de Julie Amand, médiatrice scientifique au Dôme, Arnaud Rioual, chef de projet en médiation également au Dôme, et Romane Galanti, étudiante en Master 2 de médiation scientifique. Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec des robots humanoïdes qui ont couru un semi-marathon en Chine.
C'est une première mondiale, ces robots ont couru aux côtés de sportifs pendant 21 km ce samedi 19 avril. De toute forme et de toute taille, ils se sont affrontés dans les rues de Pékin sur une piste séparée des athlètes. Certains couraient de manière autonome et d'autres étaient pilotés à distance par leurs entraîneurs.
Et alors, quel a été le résultat de cette course?
Eh bien, le robot le plus performant, Tiangong Ultra, d'1m80 pour 52 kg, a terminé le parcours en 2h40 minutes et 42 secondes, tandis que le vainqueur humain a terminé le semi-marathon en 1h, 2 minutes et 36 secondes. Les machines sont donc loin de remplacer nos athlètes, mais ce n'était pas l'enjeu de cet événement organisé pour tester les performances et la fiabilité des androïdes. Jeudi dernier, des astronomes de l'université de Cambridge ont annoncé avoir observé des indices de vie sur une autre planète.
Ça se passerait sur K2-18b, une exoplanète située à 124 années-lumière de la Terre. À l'aide du télescope spatial James Webb, les scientifiques ont pu trouver la trace de deux gaz dans son atmosphère, le sulfure de diméthyle et le disulfure de diméthyle. Sur Terre, ces composés chimiques ne sont produits que par des organismes vivants, comme le phytoplancton. Leur présence pourrait donc être une preuve de vie sur l'exoplanète.
Mais ces résultats sont tout de même à prendre avec des pincettes.
En effet, la communauté scientifique reste très sceptique. D'une part, car à cette distance, les observations sont trop imprécises pour affirmer avec certitude la présence de ces gaz. De l'autre, car ils pourraient être produits par des moyens qui nous sont encore inconnus. L'hypothèse du vivant semble d'ailleurs peu probable, puisque la température de K2-18b serait a priori autour des 1000 degrés, bien trop chaud pour avoir de l'eau liquide. Un rappel massif de pots pour bébés Nestlé a eu lieu partout en France.
Ils ont été commercialisés dès le mois de septembre 2024 dans des supermarchés Auchan, Carrefour, Casino, Coopérative U, Leclerc, Lidl et Intermarché. Le 19 avril dernier, Rappel Conso a émis une alerte sur des pots pour bébés des marques Nestlé Petite Recette, Nestlé Nature et Nestlé Petit Souper. Et parmi eux, on compte un certain nombre de plats salés comme les lentilles vertes jambon, la paella ou le tagine de poulet. Vous pouvez retrouver la liste complète sur le site rappel.conso.gouv.fr.
Mais quelle est la raison de ce rappel?
Eh bien, ces pots contiendraient une toxine, l'ocratoxine A, une substance naturelle produite par certaines moisissures. Mais pas de panique, seule une consommation répétée tout au long de sa vie pourrait avoir un impact sur votre santé. Les personnes en possession de ces pots sont tout de même invitées à ne plus les consommer et à les rapporter en magasin. Des chercheurs chinois ont découvert une potentielle cause de la maladie de Charcot.
Cette maladie rare, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique ou SLA, touche environ 8000 personnes en France. Elle se caractérise par une paralysie progressive des muscles du corps, entraînant la mort 3 à 5 ans après le premier diagnostic. Une équipe de scientifiques chinois vient donc de publier une étude permettant peut-être de lever le voile sur l'origine de la maladie. En analysant 40 patients, ils ont pu identifier une anomalie génétique présente dans l'ADN de leurs mitochondries. En introduisant cette même anomalie dans l'ADN de rats en bonne santé, ils sont même parvenus à reproduire la maladie.
Et ces résultats sont symboles d'espoir pour les chercheurs.
Effectivement, cette nouvelle piste pourrait permettre de développer de nouveaux outils diagnostiques et surtout des traitements pour cette maladie qui est pour l'instant incurable. Les scientifiques cherchent désormais de nouveaux patients pour confirmer leur découverte. Un calamar colossal a été filmé à 593 mètres de profondeur au large des îles Sandwich du Sud.
C'est une première après près d'un siècle de recherche. Le 9 mars dernier, un robot contrôlé à distance a filmé par hasard un bébé calamar colossal. Les scientifiques étaient à la recherche de l'animal depuis 1925, date à laquelle des restes du spécimen avaient été retrouvés dans l'estomac d'une baleine. Le bébé observé en mars dernier mesure 30 cm et est doté de longs tentacules, de gros yeux rouges et d'un corps translucide. Une fois adulte, le calamar colossal atteint environ 500 kg et mesure jusqu'à 7 mètres.
Mais en quoi cette découverte est-elle une avancée scientifique ?
Eh bien parce qu'elle nous permet d'en savoir un peu plus sur la faune qui évolue dans les grands fonds marins, tout comme son cousin le calamar géant. Le calamar colossal vit dans les profondeurs des océans, ce qui le rend très compliqué à étudier. Cette vidéo d'environ 3 minutes 30 représente donc une ressource essentielle pour mieux comprendre le comportement de cette espèce dans son milieu naturel. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a tout juste 9 ans, 175 pays se rassemblaient à New York pour signer les accords de Paris sur le climat.
C'était un 22 avril, à l'occasion de la Journée de la Terre. Les pays ont choisi cette date symbolique pour signer cet accord, établi pendant la COP21 en décembre 2015. Il s'agit du premier traité universel visant à lutter contre le réchauffement climatique. Son objectif principal, maintenir le seuil d'augmentation de la température à 2 degrés maximum par rapport à l'ère pré-industrielle et de continuer les efforts pour la limiter sous les 1,5 degrés.
Et alors, où en est-on de cet objectif aujourd'hui ?
Eh bien justement, 2024 était la première année à dépasser ce seuil d'1,5 degré. Si une seule année n'est pas représentative, elle reste la preuve que les changements climatiques s'accélèrent plus vite que prévu. Et la situation ne risque pas de s'arranger avec la montée du climato-scepticisme dans les grandes puissances mondiales. Le 20 janvier dernier, le président des États-Unis Donald Trump a signé un décret pour se retirer une nouvelle fois des accords de Paris.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Leur production, leur utilisation et leur élimination représentent environ 4,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les plastiques seraient la cause de la plus grande pollution de tous les temps. Mais de quoi sont-ils faits ? Comment les recycle-t-on ? Et comment limiter leur impact sur les écosystèmes ?
Pour en parler, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Julie Amand, médiatrice scientifique au Dôme, Arnaud Rioual, chef de projet en médiation également au Dôme, et Romane Galanti, étudiante en Master 2 de médiation scientifique. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi s'est constitué le plastique ?
Là, donc un plastique, c'est un polymère. Un polymère, donc une grosse molécule constituée de plein de petites molécules identiques qu'on appelle monomères. C'est cette configuration en fait, chimique qui donne la plasticité au plastique, justement. Donc le fait qu'on peut faire n'importe quelle forme avec, donc on peut avoir, on rajoute des additifs dedans, quoi, en fait. Donc ça va être ces polymères avec des additifs, ça va nous donner des plastiques qui peuvent être transparents, qui peuvent être rigides, qui peuvent être légers, qui peuvent être etc. Donc c'est pour ça que c'est si pratique et si utilisé aujourd'hui, et très peu cher, puisque issu d'un déchet de la transformation du pétrole, en fait.
Alors justement, très concrètement, comment on le crée, ce plastique ?
Donc pour 98% des cas, c'est pétrosourcé, c'est fait à partir de pétrole. C'est fait à partir de naphta, qui est un déchet, en fait, une fois qu'on a produit les bitumes, qu'on a produit l'essence, le gasoil, etc. Il nous reste ce naphta dont on ne sait pas trop quoi faire et dont les industriels, en fait, on saisit l'opportunité d'avoir une ressource pas très chère pour faire des plastiques. Voilà, c'est de l'économie circulaire presque, mais qui va, on le dira tout à l'heure, qui n'est pas sans poser de problème pour sa fin de vie.
Et quelles sont les différentes propriétés du plastique ?
Il peut avoir des propriétés, toutes les propriétés qu'on veut en fait. Le plastique peut être à la fois transparent, souple, rigide. Comme le disait Arnaud, c'est à la fois les caractéristiques chimiques et physiques et l'assemblage des molécules qui fait qu'il va avoir des propriétés particulières, mais aussi l'ajout des additifs qui vont permettre de lui donner la transparence, la coloration et toutes les propriétés qu'on veut.
Vous parlez de différentes propriétés. Est-ce qu'on a différentes formes de plastique selon les usages et selon la manière dont on le crée ?
Donc différentes formes de plastique, oui. Enfin, on a deux grands types de plastique. On a les plastiques dits thermoplastiques. Ceux-là, on peut les refondre et refaire des formes comme on veut. Et on a les thermodurcissables, qui sont eux un peu plus problématiques parce qu'on peut pas du tout les recycler. Donc ce sont des plastiques, une fois qu'ils sont figés, on peut plus rien en faire. Donc généralement, ils sont enfouis ou incinérés.
Et en fonction de la molécule qu'on utilise, on a des plastiques qui sont différents. Il existe plein de molécules de plastique différentes. On dit souvent les plastiques plutôt que le plastique, parce qu'en fait, c'est des matières qui sont très très nombreuses.
Et alors, est-ce que vous connaissez un petit peu quelles sont les origines du plastique ? Pourquoi ça a été inventé ?
Alors ça remonte à l'Antiquité presque, si on parle des plastiques naturels, donc les VA, où on avait des choses plastiques comme ça, le caoutchouc, plutôt au 18e ou 19e, et puis on a vraiment commencé à faire des plastiques au 20e siècle. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a que 2 millions de tonnes de plastique produites dans les années 50, donc ça fait vraiment pas beaucoup quand on est à 460 millions aujourd'hui. Donc on voit cette progression, vous le mentionnez en introduction, avec des prévisions OCDE à 1,2 milliard de tonnes. Donc on a l'impression qu'on fait des efforts, on a l'impression qu'on est en train de changer la tendance, mais la courbe elle est toujours aussi exponentielle et on commence seulement à voir aujourd'hui les dégâts que ça fait sur l'environnement.
Et donc comment on en est venu à avoir autant de plastique? On l'a dit, il est presque partout aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un moment, un point de bascule où le plastique est devenu omniprésent ou est-ce que ça a été finalement très progressif?
On a un grand tournant dans les années 50-60 où on a commencé à équiper, même si on regarde les frigos, donc tout ça c'est en plastique, les électroménagers, etc. Et ça a été une révolution, ça a simplifié la vie de tout le monde, de tous les occidentaux en tout cas, et ça a été vraiment une libération. Et puis en art déco aussi, et puis on a pu faire un petit peu ce qu'on voulait avec, on avait toutes les formes, toutes les couleurs, etc. Donc ça a vraiment beaucoup marché, puis on n'a pas du tout pensé aux conséquences écologiques, on n'était pas conscient du tout à l'époque. Donc ça s'est multiplié, puis comme on le disait tout à l'heure, c'est pas cher, c'est un matériau qui est pas cher à produire, donc pas cher, élégant, lisse, coloré, ça, voilà, c'est le succès du plastique. Après on a aussi des applications médicales qui sont très intéressantes. Enfin, vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous avez tout en plastique, puisqu'il y a des propriétés aussi de conservation, de non-contamination, et puis c'est jetable, tout le jetable, donc comme ça on peut jeter à chaque... après chaque patient, et ça permet d'éviter les contaminations, donc ça a rendu beaucoup de services à l'humanité en fait pendant... Donc c'est pour ça que ça s'est vraiment développé très rapidement.
Et justement, vous parliez de conséquences écologiques, c'est quoi le problème avec le plastique, concrètement?
Le problème du plastique, c'est que tout plastique produit est un plastique dont on ne sait pas quoi faire à la fin. On sait qu'il y aura toujours un moment donné où il va devenir un déchet. Le plastique, c'est contrairement au verre qui peut être réutilisable et recyclable à l'infini, le plastique, au bout de 4 à 5 utilisations, enfin recyclage, il sera considéré comme un déchet. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut... sa fin de vie, on ne sait pas.
Et du coup, on sait comment il impacte les écosystèmes dans la nature. Est-ce que finalement, il est juste là? Ou quelles sont vraiment les conséquences concrètes sur le développement des écosystèmes?
La face la plus visible, c'est les gros déchets qu'on voit un peu partout, notamment dans l'océan, avec les photochocs autour des dauphins, des tortues qui sont enroulés dans le plastique. Là, on voit directement que certains animaux peuvent être blessés, coincés, en avalés, être étouffés à cause du plastique. Mais il y a aussi tous les microplastiques qu'on ne voit pas forcément, qui sont invisibles à l'œil nu, qui sont dans la terre et dans la pollution, etc. Donc là, en fait, on a différents problèmes. Il est omniprésent. Les études sont de plus en plus nombreuses pour mesurer leur impact sur les écosystèmes, sur la pollution des sols. Donc on pourra en rediscuter après, mais effectivement, les pollutions sont multiples.
Et alors, vous parliez de microplastiques, c'est quoi exactement ?
C'est des petits fragments de plastique qui sont invisibles à l'œil nu, donc qui font moins de 1 cm, même moins de 0,5 cm, et qui vont être issus de la fragmentation de plus gros plastiques, donc qui vont se décomposer, mais en donnant des petites particules qui vont ensuite se retrouver dans l'eau, dans les sols et dans tous les environnements.
Et il faudra à peu près 500 ans en moyenne pour qu'un plastique se dégrade. C'est pour ça qu'il va disparaître à l'œil nu, mais il va pas disparaître il va continuer à causer beaucoup de problèmes. On a peut-être plus une seule moule dans le monde capable de microplastique, puisque ça filtre l'eau. On en a tous les humains sont contaminés par le plastique aussi. On connaît pas les impacts sur la santé encore, mais on en a retrouvé dans le foie, on en a retrouvé dans les poumons, dans le cerveau plus récemment. Et puis il y a une étude là de 2025 qui dit qu'on aurait 5 grammes de cerveau de plastique dans le cerveau. Donc on en a vraiment partout. Les effets sur la santé, ils sont pas encore connus. On a commencé à étudier sur les vers de terre, on a commencé à étudier sur les mammifères, les petits mammifères. Voilà, et là on parle des molécules de microplastique qui sont problématiques, mais aussi on parlait des additifs au début, parce que les additifs en plus on les connaît pas. Les industriels ont un secret industriel dessus. Donc on ne sait pas quel est l'impact des additifs sur la santé aussi, puisqu'on les retrouve aussi disséminés dans la nature.
Et vous mentionnez tout à l'heure qu'on n'a pas tout de suite pris conscience de l'impact environnemental du plastique. À quel moment c'est devenu un enjeu et un sujet sur lequel on s'est penché?
C'est assez récent. C'est assez récent parce que... On a Nathalie Gontard qui a beaucoup parlé de ces pollutions plastiques. Elle-même a travaillé sur les plastiques comme une, donc dans les, il y a une vingtaine d'années où elle cherchait elle était fascinée par ce matériau, en fait, qui permettait tant d'applications. Et puis finalement, petit à petit, elle s'est dit, mais attention, on est en train de créer quelque chose dont on maîtrise pas du tout les conséquences. Donc elle a essayé de travailler beaucoup là-dessus pour alerter la communauté internationale sur la dangerosité des microplastiques et des nanoplastiques. Donc on en retrouve vraiment partout. On en retrouve, ils peuvent se transmettre par évaporation, on les retrouve dans les nuages, donc du coup à partir de là ils se développent sur toute la planète, on les retrouve dans les lacs, on les retrouve après on les retrouve dans l'herbe, les mammifères qui viennent manger l'herbe, etc. Et ça se répartit partout, et en fait on n'a plus un seul endroit où on n'a plus de microplastiques ou de nanoplastiques.
Et alors quand on parle de pollution plastique, est-ce qu'on parle seulement des déchets ou est-ce qu'on parle aussi de la production par exemple? Qu'est-ce que ça couvre exactement?
C'est une bonne question. Oui, alors souvent on parle plutôt de la pollution et de ce qu'on voit, mais effectivement au moment où on produit le plastique, on utilise de la matière, même dans le recyclage. À chaque fois qu'on va recycler un objet, on va devoir réutiliser un petit peu de pétrole ou de matière source pour reproduire l'objet. Donc même dans la chaîne de production, on a de la pollution. Et ce qui est intéressant dans le sujet des plastiques, c'est de prendre en compte tout le cycle de vie du plastique. Du moment où il va être créé et où il va commencer à être un déchet, et jusqu'à sa fin de vie, où on ne sait pas forcément quoi en faire. Et il peut être recyclé, mais pas toujours. Il peut être enfoui ou incinéré, et donc là, on a aussi des causes de pollution là-dedans.
Il faut mentionner la fin de vie des plastiques une fois qu'on est à l'échelle de la nanoparticule. Je ne sais pas si le terme est adapté dans ce cadre-là, mais les nanoplastiques, est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on... On n'arrive pas à les observer puisqu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais est-ce qu'on sait à quel moment ils disparaissent vraiment? Est-ce qu'ils disparaissent?
À terme, ils vont disparaître, mais il faudra 500 ou 600 ans pour qu'ils disparaissent. Donc après, on les retrouve justement parce que les nanoplastiques, donc, ils passent les barrières naturelles qu'on a dans notre corps. Donc ils peuvent passer dans le sang, ils peuvent passer dans tous les organes. Donc on les retrouve surtout dans les organes. Des mammifères ou des humains ou des plantes ou de n'importe quoi. C'est à ce niveau-là qu'on retrouve les nanoplastiques. Et effectivement, il a fallu avoir des instruments de mesure suffisamment précis pour pouvoir les détecter et pouvoir dire, tiens, on a du nanoplastique ici.
Et comme ça fait seulement 70 ans qu'on a produit du plastique, en fait, on ne peut pas voir pour l'instant la fin de vie des nanoplastiques. On a des estimations comme quoi, voilà, au bout de 500 ans, tout aura disparu, mais on n'en a aucune certitude exacte.
Et justement, comment on arrive à estimer un petit peu la pollution plastique?
Oui, effectivement, parce que quand on dit 500 ans de vie, mais comme ça fait pas 500 ans qu'on produit du plastique, donc en fait, il y a des techniques en fait pour accélérer les conditions en fait en laboratoire. Donc on va augmenter la température, on va augmenter le nombre de micro-organismes qu'il y a dans le sol, par exemple, et voir que il faudra à peu près 500 ans pour qu'ils se dégradent. Mais c'est vrai qu'on l'a pas observé puisque ça fait pas 500 ans qu'on produit du plastique. Et ce qui alerte les scientifiques, c'est de dire que là, on a déjà beaucoup, beaucoup de conséquences. Ça fait 70 ans qu'on produit du plastique de façon massive, et on n'a que le début de la dégradation des plastiques. Sachant qu'il y a au moins 60% des plastiques qui sont enfouis. Même quand ils sont gérés, ils sont enfouis finalement dans le sol. Et après, de ce sol, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ils vont se dispatcher dans tout l'environnement? Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans 100 ans, dans 200 ans, sur... la dissémination des micro- et nanoplastiques.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes avec Julie Amand, Arnaud Riwal et Roman Galanti pour parler du plastique. Et on a commencé à l'évoquer rapidement tout à l'heure, mais est-ce que le plastique, il se recycle vraiment?
Alors c'est la grande question parce que en fait, il se recycle pas énormément. Tout ce qui est bouteilles en PET, par exemple, ça, oui, effectivement, toutes les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda, etc., ça se recycle bien. Mais comme disait Roman tout à l'heure, sur quelques cycles seulement. Et comme disait Julie, on est obligé de rajouter à chaque fois du plastique neuf dedans, en fait. Donc c'est quand même indispensable de continuer à trier, mais il faut savoir que la plupart des plastiques se recyclent moyennement bien. Souvent ils se décyclent, c'est-à-dire qu'on va en faire autre chose. Donc on va utiliser par exemple un plastique, on va le broyer, on va en faire après une jardinière, on va en faire des cintres pour les penderies ou des choses comme ça, mais on va avoir un plastique de qualité inférieure et qui pourrait peut-être être problématique aussi dans ça. Il est moins qualitatif, Donc il va peut-être se décomposer plus facilement en microplastique et en nanoplastique. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de chercheurs qui disent attention, le recyclage c'est vraiment pas une solution. Donc le message qu'on peut dire, c'est continuer à trier, parce que c'est hyper important, parce qu'on sait où ils sont, on sait ce qu'on va en faire, et les industriels continuent à essayer de trouver des techniques pour pouvoir gérer efficacement les déchets plastiques. C'est pas encore tout à fait concluant, et voilà. Mais...
Et est-ce qu'on a une idée dans tout le plastique qui est produit, de le taux qui est recyclé? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que la plupart des plastiques sont recyclés ou en fait pas tant?
Au niveau mondial, c'est 10%. Il y a 10% des plastiques seulement qui sont recyclés. Au niveau français, on parle de 25%. En Allemagne, 30%. Mais comme je vous dis, il y a recyclage et décyclage. Et la plupart sont décyclés. On a des PVC, par exemple, qui ne sont pas évidents. Les polystyrènes, les fameux pots de yaourt dont on entend souvent parler, qui sont en polystyrène, on ne sait pas encore très bien les gérer. Donc... Et tout ça, ça fait partie quand même de la comptabilisation dans les 22-25% de plastique recyclé.
Et juste pour rappel, c'est quoi la différence avec recyclé et décyclé?
Donc décyclé, ça va être, on réutilise un plastique usagé, un déchet plastique, pour en faire autre chose. Donc le recyclage, c'est vous avez une bouteille d'eau, vous refaites une bouteille d'eau. Donc là, ce serait du vrai recyclage. Dans le verre, par exemple, c'est du vrai recyclage. On a du verre au départ, on a une bouteille en verre à l'arrivée. Dans le plastique, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on va pas... Donc comme on le disait, on est obligé de rajouter un petit peu de plastique neuf à chaque fois. Et c'est sur un nombre de cycles qui est très limité. Donc généralement, on va faire du décyclage, c'est-à-dire qu'on va en faire autre chose. Je parlais de la jardinière, d'un pot de fleurs, etc.
Et donc si le recyclage n'est pas une solution, est-ce qu'on a des alternatives au plastique qui pourraient être envisageables pour le remplacer en quelque sorte?
Alors oui et non, c'est-à-dire que il existe aujourd'hui d'autres plastiques qui sont un peu considérés comme des alternatives aux plastiques traditionnels qu'on appelle des bioplastiques. On va pouvoir redéfinir tout ça après. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de certains plastiques, puisque tout plastique qu'on produit est un déchet. Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire notre consommation plastique pour avoir moins de déchets à la fin?
Mais ça fait une bonne transition sur notre programme de recherche, justement, qu'on comporte, que l'ABTE, le laboratoire de l'Université de Caen, porte et a chargé le Dôme, en fait, de faire une recherche participative, un volet participatif sur cette recherche d'alternatives en fait au plastique. Donc à l'Université de Caen, ils travaillent sur des PHA, polyhydroxyalkanoates, qui sont des plastiques qui sont générés par des bactéries en fait. On va nourrir des bactéries et elles vont sécréter dans leur organisme en fait des PHA qu'il va falloir extraire après, mais... Donc il y a tout un process assez compliqué, mais à la fin on a des plastiques qui eux sont 100% biodégradables. Ça, ça a été prouvé en laboratoire. Nous, ce qu'on demande aux gens, enfin c'est ce que les gens nous ont demandé en fait de tester, c'est de voir si c'est vraiment biodégradable partout. Ça, je vais laisser Julie et Romain en parler plus largement tout à l'heure.
Oui, on va y revenir tout à l'heure, mais déjà sur ces questions d'alternatives et sur ces peut-être possibilités d'éviter le plastique, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer un monde sans plastique? Ou pas du tout, faites non de la tête.
Ça serait utopique de se dire qu'on peut se passer totalement de plastique. Comme le disait notamment Arnaud tout à l'heure, il y a des domaines où le plastique est indispensable, notamment la santé, ou même d'autres domaines. On sait qu'on peut enlever certains plastiques et les remplacer par d'autres matériaux. Peut-être revenir à des bouteilles en verre, à des consignes, etc. Mais par contre, certains domaines, notamment le médical, nécessitent des usages plastiques. Par contre, on peut essayer de trouver des alternatives à ces plastiques conventionnels faits à partir de pétrole. Mais se passer complètement de plastique, je pense que c'est totalement impossible.
Le laboratoire ABTE travaille sur les PHA, là, je disais, mais il y a aussi des recherches sur des plastiques à base d'algues qui sont assez prometteurs. On a des plastiques aussi 100% cellulose, donc ils vont être moins résistants, etc., mais qui vont se dégrader très rapidement sans créer de microplastiques dans l'environnement. Donc oui, il y a quand même des pistes d'alternatives très sérieuses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur les 460 millions de tonnes de plastique produites chaque année, il y a 375 millions qui seront des déchets dans l'année. Donc c'est tous ces plastiques-là qui sont vraiment superflus. Nous, on a créé des ateliers là sur notre cycle qui sont déplastifions le superflu. c'est là-dessus vraiment qu'il faudrait essayer de travailler sur tous les emballages alimentaires, tous ces plastiques qui sont vraiment très problématiques.
Et si on veut réduire, voire éliminer le... C'est pas trop possible du coup d'éliminer, mais réduire le plastique dans sa vie, par où on peut commencer ?
Eh bien, on peut déjà regarder, on en reparlera tout à l'heure avec le programme, mais on peut inviter les gens à regarder les plastiques qu'ils ont à la maison, parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on a des objets plastiques absolument partout, dans les jouets, dans l'hygiène, dans l'aliment, dans les vêtements, vous le disiez en introduction, hein, mais c'est déjà essayer de se dire, ok, est-ce que ce plastique-là, je peux arriver à m'en passer au quotidien ? Est-ce que je peux le remplacer par autre chose ou le supprimer ? Donc c'est une réflexion qui n'est pas évidente, parce que si le plastique s'est imposé, c'est aussi parce qu'il est très pratique, qu'on n'a pas toujours le temps ni l'argent d'aller vers des alternatives. Donc c'est une réflexion et des questions qu'on peut se poser, dont on peut discuter avec d'autres personnes, mais ce n'est pas toujours évident.
Alors justement, on y vient à la recherche participative lancée au Dôme, qui s'appelle Dégénération Plastique. Donc est-ce qu'on peut revenir sur en quoi elle consiste et comment elle se décline ?
Donc le départ, donc, c'est le laboratoire ABTE qui nous a demandé, donc, dans un programme plus vaste encore de travail avec le groupe De Pestel, qui est un industriel du lin, qui travaille avec le laboratoire ABTE sur des bio composites, on va dire, des matériaux qui sont biosourcés et biodégradables. Donc avec du plastique PHA dont j'ai parlé tout à l'heure, et du lin pour renforcer les qualités du plastique. Donc ça, c'est le gros programme Prosperity qui a débuté en 2022. Sur ce programme-là, le laboratoire ABTE nous a demandé, est venu voir le Dôme pour qu'on mette en place de la recherche participative, puisque justement, il y a beaucoup de freins à la transition plastique et ils sont persuadés qu'il faut passer par le public pour faire remonter les freins, les leviers aussi de la transition plastique. Donc nous, ça a été notre rôle. On a créé les ateliers avec Julie en essayant de voir tout ce que les gens avaient comme problème avec les plastiques. Est-ce qu'ils étaient déjà conscients de la pollution plastique? Et ensuite, quelles solutions ils envisageaient? Et tout le reste du programme, avec les questionnaires qui ont été créés par les publics, avec les ateliers qu'on est en train de créer aujourd'hui, c'est justement pour répondre à la question de tout à l'heure, mais comment on fait pour se passer de plastique, concrètement ?
En fait, c'est juste pour revenir sur la recherche participative, c'est vraiment essayer de demander à la population, aux citoyens, aux citoyennes, de prendre part aux enjeux de société et aux thématiques de recherche d'aujourd'hui, leur montrer qu'elles sont légitimes et qu'elles ont une expertise et qu'elles peuvent participer à la production de connaissances, notamment autour du plastique dans le cadre de ce programme-là. Et donc, comme le disait Arnaud, tous ces ateliers qui ont été imaginés ont permis de donner lieu à une expérience. Ils ont co-créé un protocole de recherche scientifique.
Et alors, comment vous avez choisi le nom des générations plastiques ?
Donc, on a testé pas mal de choses. Là, des générations plastiques, ça nous intéressait parce qu'on est une génération plastique et on est plusieurs générations plastiques, même on est né avec le plastique en fait, et puis on a connu cette transformation et cette facilité du plastique. Et puis, comme on travaillait sur la fin de vie des plastiques principalement, la dégénérescence en fait des plastiques, quoi. C'était le jeu de mots. Et voilà, et puis on espère que la génération suivante sera moins plastique que les précédentes.
Et donc justement, en tant que médiateur scientifique, comment on mobilise le grand public sur des sujets comme cela ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que les gens étaient au rendez-vous ?
C'est toujours un peu compliqué, comme le disait Julie. Tout le monde a une légitimité à participer à ce débat de société, mais pas grand monde ne se sent légitime à parler du plastique, puisqu'ils n'ont pas forcément d'expertise. Mais ce que les chercheurs cherchent justement dans la recherche participative, c'est d'avoir les remontées des publics dans la pratique, dans le quotidien. Pourquoi ils consomment du plastique ? Pourquoi et ils vont pas vers des alternatives ? Est-ce que des PHA, ça pourrait répondre à leurs attentes ? C'est tout ça qu'on essaye de mettre en ébullition sur nos ateliers, et puis d'essayer d'en ressortir quelque chose qu'on va transmettre à un autre groupe après qui va travailler dessus. Donc on essaye de travailler toujours avec les publics, et voilà, c'est pour ça que c'est pas toujours évident de mobiliser. Par contre, c'est vrai qu'on a des ateliers, des fois ça marche très bien, ils sont pleins, et puis des fois on a que 5 ou 6 personnes qui viennent sur un atelier. Donc voilà, mais par contre, notre programme, il rencontre un vrai succès, on a beaucoup de demandes, et ça c'est vraiment chouette de voir que ça fonctionne très bien.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces ateliers plus en détail ?
Eh bien, ils ont commencé en octobre 2023. Donc la première rencontre, c'était pas un atelier, c'était une conférence vrai faux flou, c'est-à-dire une rencontre avec des scientifiques et des personnes qui parlent sur la thématique, et les questions viennent du public, et en même temps on essaye de déceler ce qui est vrai et ce qui est faux autour des plastiques. Ça a permis de lancer le programme et déjà d'avoir les grandes questions que le public se pose. Et ensuite on a eu une série d'une dizaine d'ateliers sur toute l'année, qui étaient pour construire le protocole de recherche. Donc le premier atelier, c'est les questions qu'on se pose. Donc là, le public a émis des questions et on crée des hypothèses de recherche. On a eu ensuite une phase d'atelier pour créer le protocole, prototyper l'expérience pendant le Turfu Festival. Et ensuite, on a discuté de la mise en œuvre de ce protocole, de l'expérience, du site internet, de la forme que ça pouvait avoir et de comment donner envie aussi aux gens de se prendre au jeu et de participer à l'expérience.
Et là, on est arrivé dans un nouveau cycle d'ateliers, donc déplastifiant le superflu, comme Arnaud l'a dit tout à l'heure, où cette fois-ci, on va aussi essayer de questionner sur les comportements de consommation et comment est-ce qu'on pourrait essayer de réduire notre propre consommation.
Et là, vous avez lancé, si je ne me trompe pas, un kit des générations plastiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça fonctionne, ce kit ?
Alors, donc c'est un kit qui est disponible depuis février et les gens vont pouvoir le commander jusqu'à février 2026, s'ils ont envie. Donc en fait, il y a un double protocole. Donc tout d'abord, on reçoit donc une lettre avec une enveloppe avec donc un kit à monter chez soi. Donc on a un cadre qui est dans un plastique qui s'appelle PLA, qui est aussi un bioplastique, mais qui lui ne se dégrade pas dans la nature. Il faut qu'il soit en composteur industriel, donc dans des conditions très spécifiques de température et d'humidité. Donc ça va servir de témoin pour l'expérience. Et donc on a 5 bandelettes toutes composées de PHA qui elles devraient normalement se décomposer, et donc les personnes vont pouvoir tester un protocole sur 4 mois où ils vont soit enfouir dans leur jardin ou dans une jardinière leur kit, soit le clouer au sol ou alors l'exposer à la lumière et attendre pendant 4 mois pour ensuite récupérer le kit et voir si effectivement il y a eu une dégradation ou non. Et en parallèle de ça, on a une série de 3 questionnaires où les publics vont pouvoir répondre sur notamment des questions de consommation.
Et alors, comment on va vous rejoindre pour les prochains ateliers ? C'est quand ?
Alors tout d'abord, on a une visite du Dôme le samedi 3 mai, où justement on va pouvoir parler du programme des générations plastiques. Et sinon, on a 2 autres ateliers déplastifiant le superflu, le mercredi 21 mai et le samedi 14 juin. Et on a également un atelier un peu plus tard, le mercredi 16 juillet, avec le Cèdre, où là on va faire une pêche au plastique.
Merci beaucoup Julie Amand, Arnaud Riwal et Romane Galanti d'être venus à notre micro. On le rappelle, vous êtes respectivement médiatrice scientifique et chef de projet médiation au Dôme et étudiante en Master 2 de médiation scientifique. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée. Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. On commence avec un rendez-vous à ne pas manquer, la conférence musicale de ce jeudi à l'IMEC. Celle-ci vous sera présentée par Étienne Klein, physicien, professeur à l'École Centrale Paris et directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, avec Olivier Mélano, musicien, improvisateur et compositeur. Ensemble, ils vous proposeront une plongée dans les mystères de l'espace-temps et de la physique quantique. Ça sera ce jeudi 24 à 20h à l'Abbaye d'Ardennes. Vous pouvez d'ores et déjà réserver par mail à réservation@imec-archive.com.
Dimanche 27 avril, la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair vous propose une conférence intitulée 60 minutes avec Épicure, animée par Ludovic Jeanne, président du cercle philosophique Le Jardin de Philodème. Elle portera sur la pensée intemporelle du philosophe grec. Rendez-vous donc dimanche prochain à 16h à la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair. Pensez à vous inscrire au 02 14 37 28 60.
Et enfin, du 25 avril au 25 juin, les étudiants du master sociologie et de licence de sciences vous présentent l'exposition Tchernobyl, l'avenir contaminé. À l'occasion du retour d'un fonds d'archives de Tchernobyl, vous pourrez découvrir pendant un mois des documents et objets uniques témoignant de la catastrophe, tout cela dans le hall de la maison de la recherche en sciences humaines. L'inauguration de l'exposition, c'est ce vendredi à partir de 18h. Vous y retrouverez une conférence de Galia Ackermann, auteur de Traversée de Tchernobyl et Tchernobyl, retour sur un désastre. Puis à 20h, une projection du film documentaire La vie contaminée, une enquête clandestine sur les conséquences de cette catastrophe nucléaire en Biélorussie. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine et dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.